Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie. Les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. L'Indonésie est considérée active dans la solution du conflit en mer de Chine méridionale. L'Indonésie continue d'être présente dans le Pacifique du Sud. Le ministre indonésien des Affaires politiques, la justice et la sécurité est arrivé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Concernant l'indépendance de la Palestine, l'attitude de l'Indonésie ne sera pas changée. L'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, est prévue d'observer le développement de la santé au Cuba. L'Indonésie et l'Italie établissent une coopération au Sinage. Cher ami, nous présentons maintenant le journal complet. L'Indonésie a un rôle très important dans la résolution du conflit en mer de Chine méridionale. Cela a été transmis par l'expert maritime du Centre d'études de la politique maritime de la Chine de l'Université Naval War Boston, les États-Unis, le professeur Peter Dutton, dans une téléconférence à l'ambassade américaine à Jakarta le mercredi 30 mars. L'Indonésie a joué le rôle important dans la détermination de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982 et ce rôle doit être continué dans la solution des conflits de la mer de Chine du Sud actuellement.
First, I think Indonesia has already really played an important leadership role in the region. Indonesia, from the very beginning.
Je pense que l'Indonésie a déjà joué un rôle important de leadership. L'Indonésie, depuis le début, a joué un rôle actif dans le développement du droit de la mer, notamment dans les négociations avec la Convention du droit de la mer de l'ONU. L'Indonésie est le négociateur actif et donne beaucoup d'influence positive au droit de la mer depuis 3 ans. Depuis ce temps, l'Indonésie a pris le rôle de leadership très positif et j'encourage l'Indonésie à continuer le rôle de leadership positif. Dans la même occasion, Peter Dutton a déclaré que l'Indonésie ne pouvait pas résoudre le problème seul. Par conséquent, l'Indonésie doit coopérer avec l'État pour faire une déclaration conjointe liée au conflit à la Chine du Sud. Cette attitude est importante pour montrer ou la position de l'Indonésie pour résoudre les conflits dans la mer de Chine méridionale pacifiquement. Le ministre coordinateur des Affaires politiques, Justice et Sécurité, ou Menko Polhukam, M. Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que le gouvernement indonésien, toujours présent dans la région du Pacifique Sud, en envoyant le ministre ou son délégué, a visité 16 pays dans cette région. Luhut Panjaitan a dit jeudi que lors de sa visite à Fidji et sa rencontre avec le premier ministre Bainimarama, le ministre de l'Agriculture et de la Gestion des Catastrophes, Ina Seriaritu, a affirmé l'engagement de l'Indonésie pour aider et coopérer avec les Fidji dans les domaines de l'économie, la pêche, l'agriculture, militaire et la culture. selon Luhut Panjaitan, la coopération militaire sera réalisée sous la forme de la gestion des catastrophes, telles que la formation pour faire face à des catastrophes et maintien de la paix. Il espère que le ministre de l'Agriculture et du Commerce de la République d'Indonésie est immédiatement venu à Fidji pour réaliser une telle coopération. Il est important afin de montrer le sérieusement de l'Indonésie. Après un vol de Suva au Fidji, le ministre indonésien des Affaires étrangères, politique et la justice et la sécurité, M. Luhut Binsar Panjaitan et la délégation indonésienne sont arrivés à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, jeudi soir. Le ministre Luhut et sa suite ont été chaleureusement accueillis par l'ambassadeur de l'Indonésie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ronald J.P. Manik, et le nombre d'employés de l'ambassade d'Indonésie à Port Moresby. À sa visite courte à Port Moresby, le ministre Luhut Panjaitan est prévu vendredi de rendre une visite de courtoisie au premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Peter O'Neill. Les relations entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée débutaient à partir des relations consulaires en 1973, se déroulaient bien et général. La visite du ministre Luhut à Port Moresby vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Plus tôt, jeudi matin, Luhut Panjaitan a fourni symboliquement l'aide d'un montant de 5 millions de dollars américains au premier ministre de Fidji, J.F. Baini Marama, lors d'une visite de courtoisie à Suva. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Armanata Kristiawa Nasir, a déclaré que l'attitude du gouvernement indonésien ne changerait pas liée à l'indépendance de la Palestine. C'est ce qu'a affirmé Armanata Kristiawa Nasir jeudi au bureau du ministère indonésien des Affaires étrangères lié à l'appel du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour établir des relations diplomatiques entre l'Israël et l'Indonésie. L'appel de Netanyahu a été transmis lors de la réception de la délégation des journalistes indonésiens lundi le 28 mars à son bureau à Jérusalem. Armanata Kristiawa Nasir a déploré les activités de plusieurs journalistes indonésiens qui avaient rencontré le premier ministre Benjamin Netanyahu a été politisé par des partis israéliens. Le président de l'Assemblée consultative du peuple, M. Zulkifli Hassan, a le projet de partir pour le Cuba dans un proche avenir pour étudier le développement de la santé au Cuba. C'est ce qu'a affirmé M. Zulkifli Hassan lors de la rencontre avec l'ambassadeur cubain en Indonésie, Nircia Castro Guevara, au bâtiment parlementaire à Jakarta jeudi. Il a estimé que le développement du secteur de la santé de Cuba ne rend pas les gens plus sains, mais aussi avoir un âge moyen plus long jusqu'à 70 ans. À cette occasion, selon Guevara, le gouvernement cubain espère que le gouvernement de MPR peut visiter le Cuba principalement pour rencontrer le Parlement ainsi que le gouvernement cubain et pour observer le développement au Cuba. La Direction générale de la sécurité et le développement d'accès de l'industrie internationale du ministère de l'Industrie, M. Ahmad Sigit Dwiwahyono, a déclaré que l'Indonésie approfondissait la coopération du transfert de la technologie italienne dans le secteur de la chaussure, de cuir et des textiles. La coopération vise à améliorer la qualité de l'industrie de main d'œuvre. Selon Sigit Dwiwahyono, le gouvernement indonésien est en train de calculer le budget pour fournir l'usinage avec les nouvelles technologies dans le secteur du textile en tant que projet pilote. Ceci pour améliorer la qualité de l'industrie nationale du textile, surtout dans le niveau des PME. La qualité des textiles indonésiens est dans le niveau intermédiaire, cependant la qualité du textile italien est très bonne. Cette coopération est très importante parce que la capacité de l'industrie du textile en Indonésie à atteindre l'échelle économique et de la technologie doit être améliorée. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Sixième longtemps après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre Tin Yau comme l'avenir de la Birmanie. Enfin, le peuple de la Birmanie a un nouveau président de civil après tant de décennies sous un chef de junte militaire. Ce nouveau président est Htin Kyaw. Il a prêté serment mercredi en tant que premier président de la Birmanie du civil. Après, il y a 56 ans, le pays a été dirigé par l'armée. Htin Kyaw, en tant que candidat de la Ligue nationale pour la démocratie, NLD, est un ami proche d'icône de la démocratie de Birmanie, Aung San Suu Kyi. L'élection de Htin Kyaw est une partie du processus de la transition politique démocratique en Birmanie. Le monde, y compris le président américain Barack Obama, a bien accepté l'investiture de Htin Kyaw. La présence d'Aung San Suu Kyi à l'investiture du président Htin Kyaw peut être aussi un signal pour le développement politique en Birmanie. Bien qu'elle ne devienne pas président, Aung San Suu Kyi va jouer un rôle dans la vie politique dans le pays. Le parti d'Aung San Suu Kyi, NLD, s'efforce une position stratégique pour Suu Kyi. Pour que la figure démocratique de la Birmanie ait toujours l'accès à la gouvernance et fasse le contrôle, NLD combattait le nouveau projet de loi pour donner la position à Suu Kyi en tant que conseiller présidentiel. Les analystes ont déclaré que le poste est presque similaire premier ministre. Si le projet de loi d'être la loi, Suu Kyi occupera un bureau spécial pour 5 ans ainsi que le mandat du président. L'initiative de ce projet de loi peut provoquer une escalade politique en Birmanie qui vient de célébrer la victoire de la démocratie. D'ailleurs, critiquée par certains députés de NLD, la proposition de la loi qui permet une puissance de contrôle pour Suu Kyi pourrait également déclencher une insurrection militaire qui occupe toujours la plupart des sièges parlementaires. L'élection de Htin Kyaw en tant que président de la Birmanie marque l'histoire et une nouvelle étape de la démocratie en Birmanie et pourrait devenir également le début de la meilleure vie pour son peuple. Les politiciens et les gens de ce pays doivent maintenir la dynamique pour éviter les complications et les troubles politiques qui pourraient émerger, comme s'est produit aux pays voisins proches tels que la Thaïlande et le Pakistan. Les escalades politiques après l'élection démocratique qui ont produit le leader gouvernemental des civils en Thaïlande sont souvent suivies par les troubles politiques qui déclenchent l'armée de prendre le pouvoir pour certaines raisons. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous rencontrer dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie de l'édition 1er avril. Nous allons commencer le 1er avril 1945. Les Américains s'attaquent à Okinawa. Après s'être emparé avec peine de la petite île d'Iwo Jima en mars, les Américains débarquent à Okinawa. Mais plus ils se rapprochent du Japon, plus la résistance des Japonais est rude. Ainsi, après avoir perdu 6000 hommes à Iwo Jima, les Américains vont devoir combattre jusqu'à la fin du mois de juin et perdre près de 16000 marines. Ils doivent également subir les attaques kamikaze qui sape les morales des troupes. Mais côté adverse, on compte plus de 100 000 victimes et le Japon est désormais à portée des bombardiers qui peuvent le pilonner. Cette résistance acharnée de l'armée nippone convaincra les États-Unis d'utiliser la bombe atomique. On chance le 1er avril 1979, Iran proclamé comme la République islamique par l'Ayatollah Ruhollah Khomeini en tant que le leader principal.
Thank you.
Après le retour de l'ayatollah Khomeini d'exil en France, le 1er février 1979, le bouleversement politique en Iran devient chaud. La chute de Reza Pahlavi semble une question de temps. Même les forces armées qui ont finalement pris parti des manifestants et des rebelles pour vaincre l'armée fidèle au Shah Reza Pahlavi dans les combats de rue accéléraient la chute de Shah Reza Pahlavi. Enfin, le Shah d'Iran et la famille royale ont fui hors du pays. La révolution islamique en Iran ont été en mesure de saper le système de la monarchie dans le pays depuis 2001. L'administration intérimaire a été formée et tenue un référendum qui a donné lieu au sein du gouvernement de la République islamique d'Iran mené par l'ayatollah Ruhollah Khomeini au 1er avril 1979. En chance, le 1er avril 1985, l'aéroport international Sukarno-Hatta a été opéré. L'aéroport Sukarno-Hatta a opéré le 1er avril 1985, remplacé à l'aéroport Kemayoran. Il est l'aéroport principal qui a servi le vol domestique et international à Jakarta. Le nom de l'aéroport est pris de deux proclamateurs de l'indépendance d'Indonésie, qui est aussi le président et le premier vice-président de l'Indonésie, Sukarno et Muhammad Hatta. L'aéroport Sukarno-Hatta a une superficie de 18 km² à une deuxième piste parallèle. L'aéroport Sukarno-Hatta a été conçu par l'architecte français Paul Andrew, qui a également conçu l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. France. L'une des principales caractéristiques de cet aéroport est le style architectural local et les jardins tropicaux dans la zone du salon d'attente. Ces amis, c'était notre l'histoire d'aujourd'hui ce soir, l'édition le 1er avril. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous dans la mise au point ayant pour titre « L'Indonésie s'efforce à libérer 10 otages ». Le bateau Brahma 12 et une barge Anan 12 transportant environ 7000 tonnes de charbon ont été détournées sur son chemin de Sungai Puting, sud de Kalimantan à Batangas, au sud des Philippines, par le groupe d'Abu Shayaf. Mais le bateau Brahma 12 a été libéré et est maintenant aux autorités philippines. Pendant ce temps, le bateau Anan 12 et 10 membres d'équipage des citoyens indonésiens sont encore aux mains des pirates, mais on ne sait pas exactement la position. L'information sur cet otage est connue quand quelqu'un prétendant être des membres du groupe extrémiste Abu Shayaf a téléphoné la compagnie du propriétaire du navire et a demandé une rançon environ 50 millions de pesos, soit environ 15 milliards rupiah. Le gouvernement s'efforce actuellement la libération de 10 matelots de citoyens indonésiens qui deviennent otages du groupe Abu Shayaf dans les eaux philippines. Cependant, le gouvernement indonésien a également souligné de ne pas répondre à cette demande. Le secrétaire du cabinet Pramono Anung a déclaré mardi à Jakarta que le président Joko Widodo a ordonné le chef de police, le général Badruddin Haiti, de coordonner immédiatement avec le ministère des Affaires étrangères et l'armée nationale indonésienne. Il a confirmé que le gouvernement s'est forcé à arrêter les acteurs en otage parce qu'ils ont commis un crime dans la région de l'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI. En ce qui concerne le déploiement de soldats et de la police pour libérer les otages, il a été coordonné par le gouvernement. À cet égard, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a affirmé à Jakarta mardi qu'afin de libérer 10 matelots de citoyens indonésiens qui deviennent otages de la bushayer dans les eaux des Philippines, sa partie continue à faire de la communication et la coordination avec les parties concernées en Indonésie et aux Philippines, y compris communiquer directement avec le ministre philippin des Affaires étrangères. Elle a également souligné que le gouvernement indonésien continuera à travailler dur et à coordonner pour sauver ses 10 citoyens indonésiens. Pendant ce temps, le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizat Ryakudu, a affirmé que l'armée nationale indonésienne, TNI, était prête à aider l'armée philippine à gérer les pirates de 2 indonésiens et retient en otage de 10 citoyens indonésiens. Ria Mizat Ryakudu a confirmé que TNI avait préparé les navires de patrouille. Il a expliqué, le militaire indonésien ne peut pas faire arbitrement l'opération sur le territoire des Philippines sans l'autorisation de ce pays. Selon lui, TNI a coordonné avec le ministre philippin de la Défense lié au détournement du navire indonésien et l'otage de 10 citoyens indonésiens. D'autre part, le chef de la commission du Parlement, Mahfouz Siddiq, a demandé au gouvernement de prioriser la diplomatie et la coordination avec le gouvernement philippin à libérer 10 citoyens indonésiens qui étaient détenus en otage de la bushayer. C'est ce qu'a affirmé également un membre de la commission du Parlement, Tantowi Yahya. Tantowi Yahya a suggéré au gouvernement indonésien d'utiliser d'abord son représentant à Mani avec l'aide de l'agence de renseignement de l'État, BIN, pour communiquer avec le groupe d'Abu Shayaf pour libérer des citoyens qui sont retenus en otage. L'action décisive est utilisée seulement lorsque les pourparlers échouent. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
L'Indonésie a un rôle très important dans la résolution du conflit en mer de Chine méridionale. Cela a été transmis par l'expert maritime du Centre d'études de la politique maritime de la Chine de l'Université Naval War Boston, les États-Unis, le professeur Peter Dutton, dans une téléconférence à l'ambassade américaine à Jakarta le mercredi 30 mars. L'Indonésie a joué le rôle important dans la détermination de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982 et ce rôle doit être continué dans la solution des conflits de la mer de Chine du Sud actuellement.
First, I think Indonesia has already really played an important leadership role in the region. Indonesia, from the very beginning.
Je pense que l'Indonésie a déjà joué un rôle important de leadership. L'Indonésie, depuis le début, a joué un rôle actif dans le développement du droit de la mer, notamment dans les négociations avec la Convention du droit de la mer de l'ONU. L'Indonésie est le négociateur actif et donne beaucoup d'influence positive au droit de la mer depuis 3 ans. Depuis ce temps, l'Indonésie a pris le rôle de leadership très positif et j'encourage l'Indonésie à continuer le rôle de leadership positif. Dans la même occasion, Peter Dutton a déclaré que l'Indonésie ne pouvait pas résoudre le problème seul. Par conséquent, l'Indonésie doit coopérer avec l'État pour faire une déclaration conjointe liée au conflit à la Chine du Sud. Cette attitude est importante pour montrer ou la position de l'Indonésie pour résoudre les conflits dans la mer de Chine méridionale pacifiquement. Le ministre coordinateur des Affaires politiques, Justice et Sécurité, ou Menko Polhukam, M. Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que le gouvernement indonésien, toujours présent dans la région du Pacifique Sud, en envoyant le ministre ou son délégué, a visité 16 pays dans cette région. Luhut Panjaitan a dit jeudi que lors de sa visite à Fidji et sa rencontre avec le premier ministre Bainimarama, le ministre de l'Agriculture et de la Gestion des Catastrophes, Ina Seriaritu, a affirmé l'engagement de l'Indonésie pour aider et coopérer avec les Fidji dans les domaines de l'économie, la pêche, l'agriculture, militaire et la culture. Selon Luhut Panjaitan, la coopération militaire sera réalisée sous la forme de la gestion des catastrophes, telles que la formation pour faire face à des catastrophes et maintien de la paix. Il espère que le ministre de l'Agriculture et du Commerce de la République d'Indonésie est immédiatement venu à Fidji pour réaliser une telle coopération. Il est important afin de montrer le sérieusement de l'Indonésie. Après un vol de Suva au Fidji, le ministre indonésien des Affaires étrangères, politique et la justice et la sécurité, M. Luhut Binsar Panjaitan et la délégation indonésienne sont arrivés à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, jeudi soir. Le ministre Luhut et sa suite ont été chaleureusement accueillis par l'ambassadeur de l'Indonésie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ronald J.P. Manik, et le nombre d'employés de l'ambassade d'Indonésie à Port Moresby. À sa visite courte à Port Moresby, le ministre Luhut Panjaitan est prévu vendredi de rendre une visite de courtoisie au premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Peter O'Neill. Les relations entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée débutaient à partir des relations consulaires en 1973, se déroulaient bien et général. La visite du ministre Luhut à Port Moresby vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Plus tôt, jeudi matin, Luhut Panjaitan a fourni symboliquement l'aide d'un montant de 5 millions de dollars américains au premier ministre de Fidji, J.F. Bainimarama, lors d'une visite de courtoisie à Suva. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Armanata Kristiawan Nasir, a déclaré que l'attitude du gouvernement indonésien ne changerait pas liée à l'indépendance de la Palestine. C'est ce qu'a affirmé Armanata Kristiawan Nasir jeudi au bureau du ministère indonésien des Affaires étrangères lié à l'appel du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour établir des relations diplomatiques entre l'Israël et l'Indonésie. L'appel de Netanyahu a été transmis lors de la réception de la délégation des journalistes indonésiens lundi le 28 mars à son bureau à Jérusalem. Armanata Kristiawan Nasir a déploré les activités de plusieurs journalistes indonésiens qui avaient rencontré le premier ministre Benjamin Netanyahu a été politisé par des partis israéliens. Le président de l'Assemblée consultative du peuple, M. Zulkifli Hassan, a le projet de partir pour le Cuba dans un proche avenir pour étudier le développement de la santé au Cuba. C'est ce qu'a affirmé M. Zulkifli Hassan lors de la rencontre avec l'ambassadeur cubain en Indonésie, Nircia Castro Guevara, au bâtiment parlementaire à Jakarta jeudi. Il a estimé que le développement du secteur de la santé de Cuba ne rend pas les gens plus sains, mais aussi avoir un âge moyen plus long jusqu'à 70 ans. À cette occasion, selon Guevara, le gouvernement cubain espère que le gouvernement de MPR peut visiter le Cuba principalement pour rencontrer le Parlement ainsi que le gouvernement cubain et pour observer le développement au Cuba. La Direction générale de la sécurité et le développement d'accès de l'industrie internationale du ministère de l'Industrie, M. Ahmad Sigit Dwiwahyono, a déclaré que l'Indonésie approfondissait la coopération du transfert de la technologie italienne dans le secteur de la chaussure, du cuir et des textiles. La coopération vise à améliorer la qualité de l'industrie de main d'œuvre. Selon Sigit Dwiwahyono, le gouvernement indonésien est en train de calculer le budget pour fournir l'usinage avec les nouvelles technologies dans le secteur du textile en tant que projet pilote. Ceci pour améliorer la qualité de l'industrie nationale du textile, surtout dans le niveau des PME. La qualité des textiles indonésiens est dans le niveau intermédiaire, cependant la qualité du textile italien est très bonne. Cette coopération est très importante parce que la capacité de l'industrie du textile à l'Indonésie à atteindre l'échelle économique et de la technologie doit être améliorée. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, je vais présenter la place de Grenyu Watu Dodol, Banyuwangi, Java Est. Le gouvernement de Banyuwangi, Java Est a développé trois nouvelles attractions touristiques pour attirer les touristes, à savoir le réservoir Sidodadi, la place de Bangsring et la place de Grenyu Watu Dodol à Kalipuro. Le réservoir Sidodadi est la zone de plantation de cacao. À ce réservoir sera construit un village de chocolat. Plus tard, dans la place Bangsring, les touristes peuvent nager avec les poissons. Tandis que sur la place de Grenyu Watu Dodol, dans le district Wongsorejo, sera développé en trois zones pour choyer les touristes locaux et étrangers qui viennent. Watu Dodol est l'icône de la place de Banyuwangi située dans la région administrative de Kalipuro à 15 km du centre-ville de Banyuwangi et à 2 km du port de Ketapang. Cette place est très fréquentée par les touristes en raison de son emplacement stratégique situé dans l'axe principal de la région de Situbondo et Banyuwangi. Dans la zone de 12 hectares sera divisée en trois régions, à savoir la zone au public, la zone de l'intérêt particulier et la zone privée. Dans la zone désignée privée, sera construit les resorts qui sont séparés pour les touristes étrangers et les touristes locaux. Cependant, pour la zone générale, peuvent être visités par le public et la zone d'intérêt particulier est celle où il y a les tentes pour vendre des nourritures et des souvenirs. D'autres installations qui sont construites telles que le terrain de jeu, la mosquée, toilette, musée et galerie des arts. Sur la place de Grenyu Watu Dodol, il y a la pierre noire de 6 mètres de haut. Cette pierre a une forme unique dans la partie supérieure et plus grande que la partie inférieure. Cette pierre rend cette zone touristique connue sous le nom Watu Dodol. Dans le langage Java, Watu signifie pierre et Dodol est l'un des plats typiques de l'Indonésie à base de riz gluant, le lait de coco et le sucre de palme. Alors, Watu Dodol est une roche dure. Le long de la ligne côtière de Cocotière, les vagues ne sont pas si grandes. En outre, à Watu Dodol, il y a aussi une source d'eau douce qui se trouve près de la plage. Vous pouvez également profiter de la beauté de la plage à partir du haut de la colline. Au-dessus de la colline, il y a deux bunkers qui ont été utilisés comme cachets ou la défense pendant l'occupation japonaise. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous dans l'Indonésie en couleurs. Yogyakarta a été décidée comme ville de batik mondiale par le Conseil mondial de l'artisanat en 2014. Afin de défendre son titre, il y a beaucoup de façons qui sont faites par cette ville. L'une d'elles est l'organisation d'un festival avec le thème « Le batik », à savoir Jogja Fashion Week ou la semaine de la mode de Jogja. Cette activité est devenue un sujet de ce programme cette fois. Serviteurs, Jogja Fashion Week est un événement annuel organisé par la ville de Yogyakarta. Comme son nom l'indique, cet événement est animé par une variété d'activités liées à la mode, telles que des défilés de mode, des séminaires, des expositions, le carnaval de rue, etc. Cette activité est organisée pour la première fois en 2006. Avec la vision de devenir la porte d'entrée de la mode en Indonésie, cet événement vise à montrer de nouvelles conceptions dans le domaine de la mode. Selon le chef du comité organisateur de Jogja Fashion Week 2016, Afif Shakur, cet événement a pour thème le patrimoine. Ce thème représente la position du batik comme patrimoine culturel de l'Indonésie avec les valeurs historiques et la philosophie qui sont très élevées. Il est approprié que le batik est inclus dans toutes les idées créatives de designers nationaux. Il vise également à encourager le batik plus global. Afif a ajouté, le batik qui est introduit n'est pas du côté de marchandise, mais le processus de fabrication. Est-ce qu'on utilise le cire ou non? Jogja Fashion Week, qui se tiendra du 24 au 28 août, représentera une diversité de motifs de batik de diverses régions d'Indonésie et combiné avec la mode contemporaine. Le chef du comité organisateur fixe des objectifs que cet événement sera assisté par 100 designers nationaux avec 1500 œuvres de la mode et 250 entrepreneurs de mode de toute l'Indonésie, et aussi bien de promouvoir la ville de Yogyakarta en tant que pionnier dans le monde du batik. Ainsi, chaque innovation du batik se réfère toujours à l'histoire du batik à Yogyakarta. Le chef de Indonesian Fashion Chamber, Lia Mustafa, a affirmé que la concentration de designers sur le batik soutiendra le gouvernement dans la réalisation de l'Indonésie en tant que centre de la mode internationale en 2025 et le centre de la mode islamique en 2020. Pendant ce temps, le chef du département de la promotion du tourisme de Yogyakarta, Putu Kartiyasa, espère le 11e événement de Jogja Fashion Week sera également animé par le Carnaval de Mars. Il pourrait contribuer à l'augmentation de la visite touristique jusqu'à 15% du total de visites en 2015, qui atteint 3,4 millions de touristes. Une série d'activités qui peut être appréciée par les visiteurs à Jogja Fashion Week 2016, entre autres, le défilé de mode, l'exposition de mode, le timbre de batik, les vidéos historiques, les photos de batik et livres batik, le carnaval de masques indonésiens, la compétition de la conception de la mode, l'art de la mode, des séminaires et le prix. Serviteurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Comment allez-vous? À ma kabar, je vous souhaite en bonne santé et bon état. Si bien que vous pouvez écouter notre émission, surtout le magazine de musique Esmo. Chers amis, vous pouvez entendre nos émissions via l'émetteur de Onkult sur 9525 kHz ou bien via le streaming audio www.foi.co.id ou bien application RRI Play sur votre appareil, gadget ou portable. Et ce soir, avec moi, Muhammad Suhartono. Dans cette édition de vendredi, on vous présente la chanteuse d'Angdut, Ella Nuraini. Eh bien, avant de continuer notre rencontre, on va entendre d'abord la chanson de Eling Mas, chantée par Ella Nuraini. Bonne écoute.
Manis tipi
Chers amis, Ella Noraini est la chanteuse qui est connue aux années 90 en provenance de Surabaya, Java de l'Est. Avant d'entrer dans le studio, Ella Noraini participe à plusieurs concours de musique à Surabaya. Et donc, lors d'un concours de musique de karaoké, elle a gagné le premier prix en provenant de Java de l'Est. Et grâce à ce succès, elle a de la chance d'aller au studio. Au début de 1996, elle obtient la fortune de publier le premier album avec le piste de Dangdut Alan Alan Mas. De plus, la chanson de langue de Java, Udek Sugeng. Et grâce à cette chanson, Udek Sugeng a pris le nom Ella Noraini, de plus en plus célèbre. Eh bien, chers amis, avant de continuer notre rencontre, allez écouter la chanson de Ella Noraini intitulée Alan Alan Mas. Bonne écoute. Chers amis, malheureusement, la chanson Alan Mas finalement n'a pas pris le succès pour elle. Pourtant, cette chanson est très amusante, mais le marché n'accepte pas. Et plus tard, Nur Aini est sorti son deuxième album intitulé Eling Mas. Mais encore, malheureusement, elle n'a pas de sens. Puis, elle se joint dans le groupe avec ses collègues Rika Nur Savitri et Gabi Pereira, sous le nom Tiga Jelita ou Trois. Dans ce groupe, Ella Nur Aini a fait du succès avec ses chansons Sin Sing Sue. Et après, elle a déplacé à l'autre compagnie musicale. Mais, hélas, elle n'a pas de succès. Et plus tard, de moins en moins, elle perd dans le monde de musique de rythme de dangdut. Bon, chers amis, c'était l'histoire de Ella Nur Aini. Et avant de terminer notre rencontre, écoutez donc la dernière chanson intitulée Nyamuk Lelaki. Merci de votre fidélité, attention, bonne écoute et au revoir.
Siapa yang tahu di pelaminan bermalu-malu di dalam kamar siapa yang tahu
sungguh sedangnya pengantin baru bersanding
Thank you.
c'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.